les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
Revenons au fabuleux monde de la politique et parlons avec Tom Mulcair. Bonjour Tom.
Salut Yasmine.
Alors cette plateforme des conservateurs, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'entendre l'entrevue que j'ai eue tout à l'heure avec Monsieur Duhaime, mais ça va faire sourciller beaucoup de monde, j'ai l'impression.
Ben, Duhaime est quand même un excellent communicateur, faut lui donner ça. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il réponde à des questions de base. Parce que, par exemple, moi, je fais beaucoup de travail à la radio anglophone à Montréal. Donc, au cours du printemps, début de l'été, il faisait sa tournée, il faisait des clins d'œil à la communauté anglophone, et évidemment, il s'en prenait aux modifications récentes à la loi 101, qu'on appelle la loi 96.
Oui.
Très bien. Mais avec un de mes collègues à la radio, il dit, bah, tu vois, il est ouvert, il est contre ça. Je dis, ah ouais, t'as vu ça où? T'es? Alors, j'ai regardé attentivement en fin de semaine, puis c'est toujours des généralités. Ah, oh, jamais je serai contre la liberté fondamentale des gens. OK.
Il l'a redit ce matin. Dire,
ben oui, mais ça veut dire quoi? Ben, je m'oppose à des mesures contraignantes, OK? Donc, la loi 96 contient beaucoup d'articles. Est-ce que tu vas abroger la loi 96 au complet? Est-ce que ça va être juste certains articles? Si oui, lesquels? Yasmine, tu n'auras jamais de réponse à ça de la part...
Mais Tom, je lui ai posé la question ce matin. Question sur 96. Est-ce qu'il retirait la loi 96 s'il était porté au pouvoir? Puis sa réponse a été catégorique. Oui, parce que je ne peux pas imaginer qu'on puisse enlever des droits après 2 ans où on a été privé de droits. Et il faut des libertés individuelles. La question que je lui ai posée après, qu'en est-il de la loi 21? Ben, je te dirais que c'est pas la même réponse.
Non, parce que la loi 21 retire des droits individuels côté liberté de religion.
Exact.
Mais j'ai bien hâte d'écouter ce bout-là parce que non, effectivement, je l'ai pas entendu. Donc, si Duhaime est en train d'affirmer qu'il va abroger au complet la loi 96, ça, c'est une nouvelle. Mais jusqu'à maintenant, comme dans ses entrevues en fin de semaine, c'était toujours avec des couches de généralité, défendre les libertés fondamentales, contre des mesures coercitives. La coercition en matière de défense française n'avait pas toujours fonctionné. Tout ça, c'est très intéressant. Mais je vais me faire un plaisir d'aller écouter ton entrevue avec lui plus tôt aujourd'hui et voir si effectivement, j'ai aucune raison de douter ce que tu me dis, mais je veux voir s'il n'y a pas une petite manière
une
de
petite se, de disparité avec ce qu'il fait habituellement.
Ben, en fait, il est très bon, hein, parce que c'est un communicateur hors pair. Il sait dire ce que son client veut entendre et surtout le client a souvent l'impression d'avoir entendu quelque chose qu'il n'a pas tout à fait dit. Mais je vais me garder ça, puis peut-être demain, quand on aura l'occasion, on s'en reparlera. Pour ce qui est de la manière d'annoncer, ben, il dit très peu de choses. Et ça, c'est habile politiquement. Parce que plus que tu en donnes, plus tu donnes à tes adversaires l'occasion de s'accrocher à tel ou tel petit bout. Donc, il montre quand même beaucoup d'habileté en disant, non, voici les 5-6 choses sur lesquelles je veux travailler le plus. Ça, c'est intéressant. Pont ou tunnel. Ça, c'est gutsy. Ça, c'est du courage. Parce que, il est en train de dire une évidence que le tunnel de François Legault, c'est du chiquet. C'est du blabla pour essayer de se défendre du fait qu'ils ont rien fait pendant 4 ans avec le troisième lien. C'est le début de l'ombre du projet, d'une imagination, d'un coup de crayon sur un bout de papier. Il montre ça, il dit c'est ça qu'on s'en va faire. C'est pas vrai. Il n'y aurait jamais de tunnel pour le nombre de voitures que ça a. Ça coûtait aussi bien d'acheter un Tesla à chaque personne de la Rive-Sud qui s'en vient travailler à Québec. Ça n'a aucun bon sens. Donc, lui est en train de dire quelque chose qui ne serait pas populaire avec les gens dans leur cour arrière sur l'île d'Orléans, mais il a déjà une réponse. On va enfouir les pylônes qui existent déjà et qui font mal aux yeux. Et oui, on va être obligé de passer par là. En termes de dépenses de l'argent public, en fait, c'est lui qui est responsable. Il dit, on a déjà un pont qui coûte des centaines de millions à remplacer entre la Rive-Nord et l'île d'Orléans. On va continuer et on va pousser ce pont de l'autre bord. En termes de dépenses d'argent public, ça tient la route, mais évidemment, l'acceptabilité sociale, bon, les gens vont sauter jusqu'au plafond. Mais si je regarde ce qui s'est fait quand l'Irlande, qui est un paysage magnifique, est devenue membre de la communauté européenne à l'époque, ben, tout d'un coup, il y avait des autoroutes qu'il fallait construire, il fallait avoir une infrastructure similaire, et les gens capotaient. Mais ils ont trouvé des manières d'enfouir un peu les autoroutes et de pas blesser le paysage. Il y aurait certainement des choses qui pourraient être apprises avec ça, parce qu'il y a une réalité très simple. Le pont Pierre-Laporte, qui est le plus neuf des deux ponts à Québec, lui, il a déjà besoin d'énormes réflexions. Le pont de Québec, le vieux, qui est magnifique, mais qui est très vieux, il est tenu en place par sa propre rouille, ben, lui, il n'y en a pas pour longtemps. Alors, il va falloir qu'on réalise qu'avec une région métropolitaine de presque 1 million de personnes, ça prend un troisième lien à Québec, point à la ligne. Ça prend ça en matière de sécurité publique. Maintenant, on discute des détails. C'est là où il est intéressant. Puis, on voit aussi qu'il vise quand même son public dans la région de la capitale, un, avec ce projet du troisième lien, qui est beaucoup plus réaliste que le tunnel imaginaire de Legault. Mais en plus, il fait des réductions d'impôts pour des gens qui gagnent jusqu'à, tenez-vous bien, 92 580 par an. Pourquoi ça? Mais ça, on vient d'englober la quasi-totalité des fonctionnaires. Pas les cadres, pas les sous-ministres et compagnie, mais les gens qui travaillent dans l'administration publique.
Mais ils habitent où, eux? Dans la grande région de Québec.
Oui, et donc, ce que je dégage de ce type-là, c'est qu'il est quand même très solide sur ses pattes en ce qui concerne la politique P majuscule. Il va être vraiment beaucoup de troubles pour Legault, parce qu'on se comprend, là. Dominique Anglade va avoir son fief dans la grande région de Montréal. Québec, good luck, hein? Bonne chance de gagner un siège là-bas. Peut-être par une parfaite division des votes, elle pourrait espérer s'inventer une possible victoire à une ou deux places.
Mais
d'une manière générale, ceux qui vont donner du fil à retard. Puis là, on va voir le public réagir, parce que les gens disent, regarde, moi, je suis contre Legault, parce que 60 % des Québécois sont contre Legault. Bon, OK, je vote qui? Ben, à Montréal, ça risque d'être beaucoup plus Anglade, et à Québec, ça risque d'être beaucoup plus Duhem. Ça, c'est la simple réalité. Qui va être squeezé là-dedans, même avec l'ajout d'une excellente candidate comme Maïté Saganache, qui, à mon point de vue, va gagner dans le nord du Québec. Le Québec solidaire risque de commencer à se faire squeezer. On a vu que Legault fait pas de quartier là à ses adversaires, même pas Québec solidaire. Il s'en va direct avec Caroline Saint-Hilaire à Sherbrooke. Donc, toi et moi, on va avoir à commenter et analyser toute une fichue de campagne électorale cet automne.
C'est drôle parce qu'on dirait qu'on connaît les résultats, mais on connaît pas comment ça va se passer durant les prochains jours, durant les 40 quelques prochains jours que l'on va vivre. J'aimerais t'entendre, Tom, quand même sur un des engagements très rapidement d'Éric Duhaime, qui est celui de déréglementer pour les propriétaires, finalement, de faire des allègements réglementaires pour les propriétaires d'appartements locatifs. J'ai l'impression que c'est comme pas dans les priorités des Québécois.
Non, mais c'est pas dans les priorités du Parti conservateur non plus. Donc, lui, il essaie de dire qu'il pense aux locataires en même temps qu'il va déréglementer. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais quand on regarde ce que Legault a fait juste avant la fin de semaine, c'était futé de la part de Legault. C'est toujours le premier ministre. Jusqu'à la dissolution de la Chambre et le déclenchement des élections, il porte toujours le titre de premier ministre. Après ça, c'est le chef de parti. Mais c'est un joyeux mélange, ces choses-là. Legault sent qu'il est faible en ce qui concerne le logement social. Il va à Laval avec ses candidats et il atterrit avec une annonce pour faire plaisir dans un de ses points faibles. Duhaime est perçu comme étant faible côté social, donc il essaie de faire quelque chose qu'il va pouvoir vendre, essayer de vendre, c'est un bon vendeur, essayer de vendre comme étant en faveur des locataires et des gens qui louent. Alors ça va être intéressant à suivre.
Tom Mulcair, merci beaucoup, on va se retrouver demain.
Yes, à demain, salut.
Au revoir.